This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Ex, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année comme Bache, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Est-ce que c'est vrai que l'amour transcende tout ? Les conventions, le conditionnement de genre, la sexualité qu'on nous attribue ? Anna va vous prouver que oui, parce que c'est à force de chercher le prince charmant qu'elle va être transcendée elle-même par un amour auquel elle ne pouvait pas s'attendre et qui va prendre toute la place.
On est en 2010, j'ai 17 ans et je viens juste de passer mon bac. C'est l'été et avec une copine, on décide d'aller dans le village où ma tante vit et qui organise une fête médiévale. J'avais jamais spécialement fait de fête médiévale avant, mais c'était un format un peu rigolo pour faire la fête et qui changeait un peu des concerts, des festivals qu'on voyait d'habitude. Et au cours de cette fête, on rencontre quelqu'un qui fait partie d'une association de reconstitution historique, qui joue donc le rôle d'un chevalier. Et cette personne, c'est Clément. Alors, il se présente, et puis le courant passe bien, on rigole bien, et on décide de suivre leurs dates. C'est-à-dire qu'ils nous indiquent toutes les fêtes médiévales qu'ils font, et on y va pendant tout l'été. On s'amuse beaucoup, on rigole. À cette époque-là, la copine qui m'accompagnait, elle avait eu un petit coup de cœur pour un chevalier elle aussi, alors c'était un été très, très sympa, très léger. Et puis, après, à la rentrée, moi, en fait, j'étais censée partir dans une école à Lyon. Donc, je suis originaire de Nîmes à la base, sauf que, au bout d'une semaine, je m'aperçois que ça ne me plaisait pas du tout. Et qui est-ce que j'appelle pour raconter ça ? Ce chevalier-là, Clément. Bon, il ne sait pas trop quoi me dire, mais il a quand même des paroles assez apaisantes. Donc, je décide de revenir à Nîmes. On refait une dernière fête médiévale courant septembre. Donc, après que j'ai laissé tomber cette école et que je sois revenue à la fac de Nîmes. Et au cours de cette fête médiévale, eh bien, on se met ensemble. Ce chevalier, il était plutôt grand, blond, avec des longs cheveux, aux yeux bleus. Et il avait un sourire plutôt franc. Enfin, c'est quelqu'un de gentil, ça se voit. Il a vraiment une figure rassurante. Et moi, à ce moment-là, c'est un peu ce dont j'ai besoin. Puisque, voilà, à 17 ans, C'est la première personne avec, que je connais avec qui j'ai une relation. Et bien du coup, on se met en couple quand je suis à la fac de Nîmes, et à ce moment-là, il habite pas très loin, il n'est pas à Nîmes même, mais il est dans une ville à côté, et concrètement, on se voit le week-end. C'est une relation très douce, c'est vraiment quelqu'un de très rassurant, d'assez posé, d'assez positif. En plus, quelqu'un qui avait ce costume de chevalier, tout ça, ça faisait tout un personnage qui sortait un peu de l'ordinaire, quoi. Je me sens un peu comme la princesse qui a rencontré son chevalier servant. C'est un terme que lui-même aime bien employer d'ailleurs, donc c'est très léger, un peu conte de fées, comme ça. Et lui, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup dans sa vie, il a plein d'amis qu'il voit très souvent. C'est quelqu'un qui se pose pas trop de questions et qui vit le moment présent, quoi. Il est en train de terminer sa licence à Avignon, du coup. Et une fois qu'il termine sa licence, moi, je décide de faire une autre année d'études, mais à Montpellier cette fois-ci. C'est pas beaucoup plus loin en soi, c'est à un quart d'heure de Nîmes. Mais il y avait à Montpellier une filière qui me plaisait bien, et à ce moment-là, comme ça fait depuis un an qu'on est ensemble, je lui propose qu'on s'installe ensemble à Montpellier. Et lui, sur le coup, il est plutôt chaud, il est plutôt partant, mais il en parle à ses parents. Et là, ses parents, ils disent non. Genre non vraiment catégorique, quoi. C'est, en fait, lui, il vient de passer une licence générale, et ses parents ne veulent pas qu'il arrête ses études à ce stade-là. Quand on se voit le week-end, c'est assez souvent chez lui, avec le fameux repas, avec ses deux parents, son grand-père. Il y a cette routine un peu qui s'installe déjà avec la salade, l'entrée, le plat, le dessert, le fromage, l'apéritif. Ses parents sont des gens qui ils aiment bien ce rituel quoi, du dimanche avec le repas très carré. On prend l'apéritif et après il faut boire une boisson chaude. Il est très très proche de ses parents, il est très très proche de son grand-père. C'est, ça fait un peu ouais, comme un petit garçon qui n'a pas encore quitté le nid. Et à ce moment-là, ça m'étonne un peu parce qu'il a 4 ans de plus que moi et que je supposais qu'il était censé être plus émancipé que moi. Quand on était chez eux, lui, il sortait de la douche et il se baladait dans toute la maison avec juste la serviette. Et elle passait et elle lui mettait une petite tape aux fesses. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, ils me disent, ah non, c'est notre rituel. C'est comme s'il était un bébé et que je venais lui taper ses fesses. Et moi, je me demandais vraiment où est-ce que j'avais atterri. C'était vraiment un gag, quoi, par moment. Donc, tout ça, c'est un peu surprenant sur le coup. Et ses parents, en fait, plus que d'être seulement proches de lui, ils prennent un peu des décisions pour lui. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là quand je lui proposais de venir vivre à Montpellier. Donc, on continue comme ça, à se voir le week-end. Moi, je suis en cité universitaire à Montpellier, je me régale plutôt bien. Et lui, il fait sa licence pro et ça lui plaît pas du tout. Mais alors, vraiment, vraiment pas du tout. Il s'en plaint tout le temps. On dirait vraiment qu'il l'a fait contraint et forcé. C'est un cursus privé. Ses parents ont payé les frais d'inscription, mais voilà, il tenait tellement à ce qu'il fasse à cette licence que... Eh ben, il l'a fait pour se plier à leur avis, mais vraiment, il a souffert pendant toute l'année. Et à la fin de cette année, moi, je relance des candidatures pour entrer en école d'ingénieur. Alors, j'ai fait des candidatures dans une école à Marseille qui m'intéresse beaucoup, et j'en ai fait d'autres à Clermont-Ferrand, à Nice, à Strasbourg. Même à Lyon, j'envoie des dossiers un peu partout pour maximiser mes chances. Eh bien, manque de bol, j'apprends, c'est à l'été 2012 du coup, que je ne suis pas prise à Marseille. Pour Nice, je suis sur liste d'attente. Les deux écoles dans lesquelles je suis prise, c'est Clermont-Ferrand et Strasbourg. Alors, de suite, ça fait un petit peu de route. C'est autre chose que d'aller à Montpellier. Et donc moi, dans ma tête, comme Clément a déjà refusé, enfin ses parents ont déjà refusé qu'il vienne avec moi à Montpellier, dans ma tête, je me dis, il n'y a aucune chance qu'ils viennent me suivre, que ce soit à Clermont-Ferrand ou à Strasbourg. Et surprise, il me dit, oui, je suis prêt à te suivre. Alors, je suis très étonnée, mais à la fois, je suis contente. Et du coup, je choisis l'école de Strasbourg. On va s'installer là-bas. Je crois que ses parents, à ce moment-là, ils se disent qu'ils l'ont déjà retenu un an, mais que sur le moment, ils ne luttent pas plus que ça. Ils essayent d'accepter le truc comme ça vient. Ils se disent surtout que ça va être temporaire. Dans leur tête, je fais mon école à Strasbourg et tout de suite après, on revient. Et donc, ils se disent, ok, faire un effort de 3 ans pour qu'après ils reviennent, c'est bon. Dans la façon d'agencer notre couple, j'ai l'impression qu'on reproduit le modèle de ses parents. C'est-à-dire lui qui attend que le repas soit servi et moi qui arrive, qui fait de mon mieux pour faire un repas. Il faut savoir que j'aime pas du tout cuisiner. C'est vraiment, vraiment pas pour moi. Alors, bon, j'essaye de jouer à la femme qui tient la maison, quoi. Je prépare les repas. Je l'encourage beaucoup aussi pour trouver un travail à Strasbourg. Et moi, pendant ce temps, je fais mon école. Je me régale, je fais ce qui me plaît. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de contacts sociaux. Et Clément, il est un peu tout seul toute la journée à chercher un emploi. Alors bien sûr, à chaque fois que je vois des amis de l'école, Clément est invité, Il s'intègre très rapidement au groupe, mais ses amis avec qui il était très très proche lui manquent beaucoup. Sa famille lui manque beaucoup et ça lui manque tellement qu'on descend tous les mois à Avignon pour voir sa famille. Alors, on descend pas en voiture, on descend en train. Niveau budget, moi je suis pas très à l'aise avec ça, quoi. Tous ces trajets, il faut descendre aussi pour l'anniversaire du grand-père chaque année avec... C'est un grand repas avec toute la famille au restaurant, toujours sous ce modèle un petit peu carré, là, entrée, plat, dessert, gnignigna. Enfin, moi, ça me gonfle, c'est tous ces trajets pour descendre voir sa famille, parce qu'en plus, on ne descend pas particulièrement voir mes parents. Comme on descend souvent juste pour un week-end, on n'a même pas le temps de voir ma famille. Au fur et à mesure, je lui dis que je n'ai pas les moyens de payer ce billet de train tous les mois. Mes parents m'aident déjà à payer le loyer et j'ai pas envie de les solliciter pour qu'ils me payent un billet de train pour aller voir la famille de Clément. Lui, il continue à faire ses trajets puisque ses parents lui payent le billet, mais moi, je ne l'accompagne plus systématiquement. En parallèle de ça, il cherche toujours un travail et ça se passe pas très bien. De temps en temps, il est pris, mais il ne passe jamais la période d'essai. Plus il enchaîne des échecs, et plus il est frustré, et plus il est malheureux. Je crois que c'était au bout d'un an et demi de vie commune à Strasbourg que mes parents viennent nous rendre visite. Et ma mère, qui est infirmière, remarque que Clément, il a perdu du poids, et qu'il boit beaucoup. Il s'enfile 4 bouteilles d'eau par jour, enfin... Il boit vraiment énormément. Ma mère l'alerte et elle lui dit « Je pense que tu es diabétique. » On l'emmène carrément aux urgences. Et on lui diagnostique un diabète de type 1. Donc c'est un diabète héréditaire et où il doit se piquer et prendre de l'insuline. Eh bien lui, il est d'abord très surpris et très choqué parce que c'est un diabète héréditaire, mais il est le premier de sa famille à l'avoir. Et puis, ses parents aussi se font énormément de soucis, quoi. Je me souviens de sa mère, elle me prend à partie, les yeux dans les yeux, elle me dit, tu sais, il est malheureux à Strasbourg. Hein. Il est vraiment malheureux. Et il y a quelque chose dans la façon dont elle me dit ça qui me fait penser que c'est parce qu'il est à Strasbourg qu'il est malheureux et que donc c'est parce qu'il est à Strasbourg qu'il a fait ce diabète. Je me dis, ah, je l'ai arraché à ses parents, je me sens hyper coupable. Il apprend à vivre avec son diabète, il s'habitue petit à petit. Mais Avignon lui manque toujours autant, donc on a une discussion à ce moment-là où il me dit « Ma famille et mes amis me manquent trop, j'ai besoin de les voir » et je lui dis « Eh bien, vas-y, si ça te fait du bien, va prendre des vacances à Avignon. Moi, je peux pas venir avec toi puisque je suis toujours en train de faire mes études ici. Mais si ça te fait du bien, va te requinquer quelque temps à Avignon et tu reviendras plus en forme. » Il fait des séjours de plus en plus longs là-bas. Il revient entre-temps, mais il y a toujours d'autres vacances qui sont prévues après à Avignon. Petit à petit, il passe de moins en moins de temps à Strasbourg et de plus en plus à Avignon. Je suis en train de terminer mes études, c'est l'année où je vais être diplômée. Et lui, du coup, il m'annonce qu'il a postulé à Avignon. Et à ce moment-là, je me sens complètement abasourdi, enfin... Je comprends pas d'où ça vient, je me dis, mais attends, c'est pas ce qui était prévu. Je pense que sur le coup, il l'a fait aussi, pas forcément contre moi, mais parce qu'il voulait vraiment revenir à Avignon, et donc c'était sans doute un geste un peu désespéré, mais bon, voilà, c'est... Je pense que ses parents l'ont fortement encouragé dans cette direction, et j'en ai la preuve peu de temps après. Pour un week-end de Pâques, on descend à Nîmes, pour un événement à nouveau avec l'association des chevaliers. Et son père vient parler à mon père, donc sans que je sois là, en lui disant « Eh bien, tout est prêt pour que Anna revienne dans le sud. On a un contact qui a des appartements à Marseille, donc elle peut revenir et trouver un travail à Marseille, tout est prêt. » Mon père ne sait pas trop comment réagir à ça, parce qu'on n'est pas au Moyen-Âge et que c'est pas à lui de parler pour moi. Donc, il vient me répéter ce que le père de Clément lui a dit. Et à ce moment-là, j'entre dans une colère noire. Je me dis qu'en fait, je n'ai pas voix au chapitre, que ce sont les parents qui prennent les décisions, et j'en ai marre. Qu'ils prennent les décisions pour leur fils, c'est une chose, mais moi, à ce moment-là, en fait, juste après mon stage, j'ai déjà trouvé un travail sur place. Je n'ai absolument aucune intention de revenir dans le sud. Ça m'a tellement mise en colère, ce truc d'aller parler à mon père, de faire des candidatures à Avignon sans me le dire. En plus, il faut dire aussi que pendant la dernière année, on s'est vachement éloigné, puisque du coup, il allait de plus en plus voir ses amis. Donc à ce moment-là, moi, je décide que j'en ai assez. Et je lui écris une lettre où j'explique que ça peut pas continuer comme ça, qu'on cherche manifestement pas la même chose, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et qu'on ferait mieux de se séparer. Dans la lettre, je critique aussi pas mal ses parents et le fait qu'ils se mêlent trop de notre vie de couple à mon goût. Et lui, il voit la lettre et il la fait lire à ses deux parents, quoi. Il me rappelle en pleurs... Et il finit par me convaincre qu'on se donne une deuxième chance. Mais au fond de moi, je sais qu'il ne va pas soudainement du jour au lendemain avoir envie de vivre à Strasbourg. Moi, c'est annoncé assez clairement que je vais rester à Strasbourg, j'ai trouvé ce travail sur place et lui n'a pas plus envie de vivre là-bas qu'avant. Donc on se sépare. Je suis à la fois très très triste parce que ça fait une page de ma vie qui se tourne, ça fait un peu moins de 5 ans, et à la fois je suis soulagée. J'avais l'impression de porter un corset, de devoir rentrer dans un moule, de devoir faire ce que je pensais qu'on attendait de moi, et c'était franchement épuisant. Oui, mais le fait de voir sa famille aussi souvent, le fait qu'ils aient des attentes aussi fortes, j'avais l'impression que je devais m'y conformer d'une façon ou d'une autre et ça faisait que je me sentais coupable. C'était vraiment pas une situation vivable sur le long terme. Je me sens libre, je fais ce que je veux, je fais aussi face à des challenges puisque à ce moment-là, je n'ai pas encore mon permis. Je le passe un peu sur le tard, mais du coup, et bien là aussi, ça fait. Je ne dépends plus de personne pour me déplacer. Je continue de m'éclater dans ma vie, dans ce que je fais. C'est vraiment très plaisant et ouais, libérateur. Et je suis tellement bien toute seule que pendant 3 ans, je n'ai absolument aucune relation amoureuse. Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai un peu peur de retomber dans un piège comme ce que j'ai vécu avant. Mon travail me passionne, alors je me mets à travailler beaucoup. Rien ne m'en empêche particulièrement puisque personne ne m'attend à la maison. Donc j'ai un peu le nez dans le guidon comme ça et ça me convient bien à ce moment-là. C'est un peu ce que je recherche. Au fur et à mesure, mes parents commencent quand même à me dire que ce serait bien que je me retrouve quelqu'un. Ma mère notamment, c'est fait de façon un peu insidieuse, mais en gros, à chaque fois qu'on va faire du shopping, elle me dit « Ah, et le vendeur, là, il est bien, tu voudrais pas être en couple avec lui ?» Je pense pas que ce soit malveillant de sa part, mais bon, elle est un peu insistante et ça me pèse. Elle me répète beaucoup que je devrais faire des activités pour rencontrer des gens, tout ça. Et moi, vraiment, vraiment, j'en ai pas envie du tout. J'apprends énormément sur moi pendant ce temps, j'apprends à me débrouiller et ça me fait énormément de bien. Ça me fait gagner en confiance en moi. Je ressens vraiment pas de manque affectif. Après ces 3 ans, je me dis, bon, je crois que maintenant, je suis prête à entamer peut-être une nouvelle histoire. Et j'ai quelques histoires, mais qui globalement se passent très très mal. Principalement parce que moi, je recherche une relation durable et qu'en face, non. Et je me mets à en discuter avec cette collègue de travail qui vient d'arriver dans le même laboratoire que moi, qui s'appelle Camille. Je me livre à elle parce que... Elle est en couple déjà depuis 2 ans à peu près. Quand on discute ensemble, je me sens vraiment comprise. Elle a envie que je sois bien. Elle me donne quelques conseils, mais sans me dire ce que je dois faire, ce qui n'est pas si facile que ça, mais elle y arrive. Elle m'aide énormément à prendre confiance en moi, encore. Elle me dit souvent que je me dénigre beaucoup trop et que je suis quelqu'un de super et tout. Et moi, ça me fait énormément de bien, ça me fait chaud au cœur d'entendre un écho comme ça. Et on passe de plus en plus de temps ensemble. Des fois, ça nous arrive de rester plus tard au travail parce qu'on est en train de se faire écouter des musiques. On se fait des blind tests et on reste jusqu'à 21h, 22h au travail. Et c'est quelqu'un de très très mature qui, effectivement, a la même vision de la vie que moi sur pas mal de choses. Le fait qu'elle soit une femme et qu'elle soit en couple, en plus, elle aime les femmes et moi, je ne suis pas intéressée par les femmes, donc je peux lui parler sans filtre, sans barrière. C'est quelqu'un qui est assez discret, qui parle pas énormément d'elle, mais je comprends quand même que sa copine fait pas mal de crises de jalousie et que l'ambiance dans leur couple est plutôt tendue. Un jour, à l'institut, on nous dit qu'il y a un exercice d'évacuation. On a été prévenu en avance, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Sauf que, eh bien, Camille et moi, on prenait de plus en plus l'habitude de faire le trajet pour aller au travail ensemble. Mais sur le chemin, on passe tellement de temps à se raconter nos vies. Elle prend des fleurs, elle me les met dans les cheveux. On traîne tellement que quand on arrive, l'exercice d'évacuation est terminé. Et j'arrive avec des fleurs plein mes cheveux. Et ça fait une scène vraiment très romantique. Elle est très très douce, très très tendre avec moi. Dans les messages qu'elle m'envoie, on s'envoie des messages tout le temps. Quand on n'est pas ensemble, on est forcément en train de s'écrire des messages toute la nuit. En étant avec elle, je comprends petit à petit que c'est quelqu'un de mature qui correspond à tout ce que j'aurais recherché chez un homme. Et je me dis, mais est-ce que c'est si grave que ça au fond, que ce soit pas un homme? Je me pose la question, est-ce que pour moi, ça me pose vraiment problème qu'elle soit une femme, puisque au final, c'est ça le seul obstacle. Au début, je passe beaucoup de temps à lui poser tout plein de questions sur ce que je sais des couples de femmes, c'est-à-dire pratiquement rien. Et on en parle pendant vraiment très 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 longtemps. Je lui demande comment sont les rapports. En fait, c'est beaucoup sur la sexualité, mes questions. Je lui demande comment ça marche. Est-ce que c'est aussi codifié? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il y a un truc qu'on fait tout le temps ou est-ce que ça change? Et elle me répond très simplement, enfin, ce sont des questions très très naïves. J'avais pas de problème à être tendre avec elle, quoi qu'il arrive. Il y a juste un moment où je me demande vraiment, voilà, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour me rendre heureuse. Je me sens planer à chaque fois que je suis avec elle. Alors, est-ce que pour moi c'est si grave que ce soit une femme? Un soir, Camille et moi, on discute toujours beaucoup et on en vient à parler du film Amélie Poulain. Ah, j'adore ce film, ça fait longtemps que je ne l'ai plus revu. Et puis on finit par convenir de le regarder chez Camille. Camille me dit « Ma copine n'est pas là, on peut se faire une bonne soirée où on regarde le film, on se prépare un petit truc à manger, ça va être sympa. » Alors j'y vais et on passe une super soirée, on rigole comme des bossus. C'est la première fois que ça m'arrive où à ce point-là, le courant passe. C'est plus que d'avoir les mêmes goûts en cinéma, en musique, où c'est un peu superficiel au final. C'est que là, sur les valeurs profondes de comment mener sa vie, comment gérer les choses, on est d'accord, mais à 100%. Ce qui est une première pour moi aussi, c'est qu'elle ne porte absolument aucun jugement sur moi. Elle ne va pas me dire « tu es trop intello » comme pouvait me le dire Clément assez régulièrement. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me dit toujours « tu es parfaite comme tu es, affirme-toi, n'aie pas honte d'être comme tu es radieuse. » Et c'est un compliment que je lui renvoie parce que c'est quelqu'un de très très généreux, très solaire. Et puis, elle prépare un super repas, elle fait une salade à la mangue incroyable. C'est quelqu'un qui cuisine très très bien. On passe vraiment une soirée magique. On rigole de tout et puis l'heure tourne. Le dernier tram est à minuit et demi. Alors je lui dis « Ah, il faudrait que j'y aille ». Et puis on continue à parler. 2 heures plus tard « Ah, il faudrait que j'y aille ». Et ainsi de suite jusqu'à 3 heures du matin à peu près. Donc, à 3 heures, elle me dit bah, « Tu vas pas rentrer chez toi, on est en pleine nuit, moi je me ferai trop de soucis. Je veux pas te laisser repartir comme ça, toute seule à pied, en pleine nuit, il en est pas question. Dors ici. » Je me dis « Ouais, ok, mais c'était pas du tout prévu, j'ai rien amené. » Puis elle dit « Mais si, regarde, je te déplie le canapé, je te donne une brosse à dents, et tu passes la nuit à la maison, et demain on va au travail ensemble. » Et c'est rigolo parce que elle me prête un pyjama. Moi, je vis seule depuis longtemps, alors je m'étais absolument pas rasé les jambes. Enfin bref, c'était un... Bon, je suis méditerranéenne, donc j'avais beaucoup, beaucoup de poils aux jambes. Elle est choquée. Et à partir de ce jour-là, elle m'appelle, bon, pas Chewbacca, mais Choubi, qui est le surnom de Chewbacca. Et on en rigole et tout ça, enfin... Elle tourne ça d'une façon très, très drôle et pas du tout négative ou dans le jugement. Et donc elle me passe une brosse à dents que je laisse dans le verre de la salle de bain en partant. J'oublie complètement, je laisse ma brosse à dents là et puis je pars, on va au travail et puis moi je vais continuer mes affaires, quoi. Sauf que elle me raconte que quelques jours après, sa copine a vu la deuxième brosse à dents dans le verre et qu'elle n'a pas du tout aimé ça. Elle qui faisait déjà régulièrement des crises de jalousie, là, elle fait une giga crise de jalousie en voyant cette brosse à dents. Et moi, instantanément, je me sens, mais ultra coupable. Donc à ce moment-là, Camille, elle ne voit absolument pas le problème. Et moi, je suis mortifiée, parce que je me sens ultra coupable vis-à-vis de sa copine que je connais et que j'ai déjà rencontrée. Ce que je dis à Camille à ce moment-là, c'est « il faut qu'on prenne des distances. Si ça a un fait avec ton couple, moi je ne veux pas perturber ta vie de couple, je ne veux pas avoir le rôle de la briseuse de ménage. Si ça dérange ta copine, c'est qu'on est allé trop loin. » Donc, brutalement, j'ai demandé à ce qu'on prenne des distances. Et Camille s'est fermée comme une huître. Elle ne comprend pas pourquoi je réagis comme ça. Et elle-même, je vois qu'elle a une réaction qui est très vive à cette distance que je lui impose. Elle en souffre énormément. On passe plusieurs jours à ne pas s'adresser la parole du tout. Et je me dis, ça la chavire sacrément quand même pour une distance d'une relation que je croyais juste amicale. Et on a une amie commune, et chacune de nous, à notre tour, on va lui dire « Ah là là, Camille, elle me parle plus, mais qu'est-ce qui lui passe ?» Et elle lui dit « Anna me parle plus, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et cette amie commune, du coup, elle comprend bien ce qui se passe. Elle comprend que Camille a des sentiments très forts pour moi et que c'est pour ça qu'elle souffre autant, que j'ai imposé une distance. Et moi, je suis en train de le comprendre aussi, que Camille ressent des sentiments amoureux envers moi. Et là, du jour où je comprends qu'elle a rompu avec sa copine, ça repart comme avant, c'est à nouveau très, très fusionnel, très tendre, elle n'est toujours pas sûre que j'ai des sentiments pour elle, alors par moments, elle se demande si je lui envoie un signal, si ça veut dire que j'ai envie de démarrer quelque chose avec elle. Des fois, on se prend la main ou quoi, et elle prend la photo de nos deux mains, et elle l'envoie à notre amie commune en disant « Est-ce que tu crois que ça veut dire qu'elle m'aime ?» Et l'amie commune, elle lui dit « Mais vas-y, fonce !» À moi, elle n'ose pas parce qu'elle a trop peur que la réponse soit un non. Donc, elle a vraiment très très peur de ma réaction. Je me dis, bon, ok, les raisons que je me donnais pour me dire qu'il n'y aurait pas d'histoire, elles sont en train de tomber en morceaux, là. Je me disais qu'il ne pourrait rien se passer avec elle parce qu'elle est en couple, ce n'est plus le cas. Bon, c'est une femme et je ne suis pas attirée par les femmes. Mais je me répète ça et en même temps, je suis plus très convaincue, moi-même. Et puis je vois qu'elle a des sentiments pour moi et j'ai pas envie que ça s'arrête. Parce que je réalise qu'on a vraiment une relation précieuse et que c'est vraiment la première fois dans toute ma vie que je me sens aussi bien comprise par quelqu'un. En juin 2018, notre chef nous propose de participer à un congrès qui se tient dans le sud de l'Italie, dans un petit village très très mignon, juste au bord de la mer. On décide d'y aller toutes les deux, et je lui propose qu'on se fasse un petit trip en Italie après le congrès. En soi, le travail nous paye le voyage aller et retour, mais ça ne change rien si le retour est 3 jours plus tard, 3 jours après le congrès. On passe une soirée chez moi, j'ai acheté le guide du routard. On coche tout ce qu'on a envie de faire et à nouveau, il y a cette symbiose. On est d'accord sur tout. On prépare ce voyage vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et je me rends compte que c'est très très facile de planifier des vacances. Dans ma tête aussi, comme je commençais un peu à me questionner, je me dis c'est un test. Si on est capable de passer des vacances toutes les deux, hors du cadre du travail, sans se prendre la tête, c'est qu'il faut se poser la question d'entamer une histoire toutes les deux, quoi. C'est un peu qui tout double. Donc on fait le congrès, on n'assiste pas beaucoup aux conférences, hein, parce qu'on passe toute la journée à jouer dans l'eau. De l'extérieur, je pense qu'on doit donner l'impression d'un couple en lune de miel. C'est de plus en plus tendre, on prend le bus, je m'endors sur son épaule. Et elle envoie toujours plein de messages à notre amie commune. « Elle dort sur moi, qu'est-ce que je fais ?» Et après, on commence notre trip que toutes les deux, donc on loue une voiture sur place. On voit toutes les villes qu'on a prévu de voir. C'est vraiment magique. On communique toujours par télépathie. Tiens, j'ai envie de boire un verre, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Allez, on y va. On est dans un très très beau lieu et vraiment, j'ai à nouveau cette impression de flotter, que tout est fluide, que tout est instinctif. Et je me dis, c'est la première fois que je passe d'aussi bonnes vacances. Même avec Clément, avec qui j'étais en couple pendant si longtemps, on n'a jamais passé d'aussi bonnes vacances où on était d'accord sur tout et où je n'avais pas l'impression de faire des concessions ou des efforts. C'est des vacances absolument magiques. Un soir, on va au restaurant et on finit pas la bouteille. Alors il nous propose de l'emmener. Donc on est dans les rues de cette ville avec cette bouteille de vin rouge. On se pose sur un banc et on se met à refaire le monde. On parle de tout et l'alcool aidant, on a de moins en moins de filtres. Et moi, au bout d'un moment, je me mets à dire « Mais quand deux personnes sont attirées, quand elles se comprennent vraiment bien, quand il y a vraiment cette symbiose, est-ce que c'est pas un peu dommage de se bloquer pour une question de genre ?» Et là, elle bouge plus, elle attend. Elle attend de voir si je vais aller plus loin. Mais j'arrête ma réflexion là, je dis juste, je pense qu'on devrait pouvoir aimer qui on veut, quel que soit son genre. Si on est attiré, si on voit qu'on a une bonne symbiose, en tout cas pour moi, je pense que le genre n'est pas important. Et ça s'arrête là. Au final, on rentre de vacances. Chacune, on se retrouve dans notre appart et ça nous fait bizarre de se retrouver sans l'autre, alors qu'on a été ensemble H24 pendant près d'une semaine au final. Et donc, quand on revient au travail, on se retrouve, c'est à nouveau une ambiance très tendre et un jour, elle me fait un câlin qui dure très très longtemps. Et là, on est sur le point de s'embrasser, et je lui dis « Attends, on sort ». On va dans l'espace vert de l'Institut, on se met sur un banc sous un arbre, je vois qu'il va se passer quelque chose et que c'est imminent, et que j'en ai envie aussi. Alors, je fais le premier pas et je l'embrasse. Et là, elle fait « Yes !» en levant le poing. J'ai rien à réfléchir, c'est spontané, ça me fait des papillons dans le ventre, ça... J'ai l'impression de trouver ma place, de trouver quelqu'un avec qui je me vois bien tailler un bon morceau de chemin, parce que vraiment, jamais j'ai eu une telle connexion. Et je me dis, mais où tu étais pendant tout ce temps? Et enfin voilà, elle, très rapidement, elle me dit qu'elle attendait ça depuis un an, qu'elle guettait chacun des signes que je pouvais envoyer, et que là, ça se concrétise enfin, alors elle explose de joie. Et moi aussi. Et à partir de ça, du coup, on débute notre relation. Dans les premiers temps, du coup, on se parle beaucoup, on se livre beaucoup sur nos histoires passées. Elle, c'était pas la première fois qu'elle était en couple avec des femmes qui n'avaient connu que des hommes avant. Donc c'est une situation qu'elle connaît et elle se dit « Je ne vais pas la brusquer, je vais la laisser faire le premier pas, ça prendra le temps que ça prendra, pas de problème. » Sauf que c'est moi qui lui saute dessus. c'est moi qui fais le premier pas et il n'y a rien à guider. Hein, c'est elle a même pas besoin de me guider parce que c'est très très intuitif. Quoi. Il y a aucune question à se poser, tout semble évident, et c'est la relation la plus épanouissante que j'ai eue jusqu'ici, quoi. Enfin, c'est vraiment... Je me dis, ah ouais, mais vraiment, où tu étais pendant tout ce temps? J'ai l'impression que c'est ma première fois. Et vraiment, ça se fait sans pression, sans crainte, ça se fait de façon très très naturelle. Et puis, toutes les deux, on se rend compte que vraiment, on part pour. Enfin, on se dit, si tu es avec moi, tu signes pour un bail qui va durer longtemps quand même. J'espère que ça ne te fait pas peur. J'ai dit, ah ben non, tu parles. Je signe, je resigne. J'ai dit, là, on est embarqué. Eh bien, au début, à mon entourage, je ne le dis pas. Je ne leur dis pas que je suis en couple avec Camille. Je me dis, on va se donner un an. Comme ça, on peut profiter des débuts de notre relation dans l'intimité. Pour moi, c'est assez facile de faire ça parce que de toute façon, il n'y a aucun membre de ma famille qui vit à Strasbourg. Donc, ça fait une sorte de bulle dans laquelle on peut construire des bases solides pour notre couple avant de nous exposer au regard de ma famille. J'ai très peur de ce qu'ils vont penser. Je me dis que ça va être difficile, que ça va être une épreuve à surmonter. Et je préfère attendre que notre couple soit bien ancré pour pouvoir affronter ça. On arrive en 2019. Pour le travail, je dois faire un déplacement de 2 mois en Suède, en février et mars. Bon, Camille est très triste que je parte aussi longtemps. On est ensemble H24 depuis quelque temps, alors on se met d'accord pour que je vienne m'installer chez elle au retour de la Suède. Pendant que je suis en Suède, elle me manque énormément et je lui écris une lettre d'amour que je lui envoie pour la Saint-Valentin. Ça la fait pleurer, enfin. On a vraiment conscience toutes les deux de vivre quelque chose d'unique. Et comme ça fait pratiquement un an qu'on est ensemble et qu'on s'apprête à vivre ensemble, je me dis, ok, il est temps que je le dise à mes parents. Alors, mes parents viennent me voir en Suède. Et pendant tout le temps où ils sont là, je suis en panique. Je me dis, mais quand est-ce que je vais trouver le moment pour leur dire, maintenant ou après? Est-ce que ça va être gênant après, une fois que je l'ai dit? Donc, comme j'ai très peur, j'attends parmi les derniers jours de leur séjour. On fait une balade sur un lac gelé dans la forêt. Enfin, c'est un endroit magnifique. Et là, je me lance. Je dis, voilà, papa, maman. Vous savez, Camille, cette collègue dont je vous parle depuis longtemps et avec qui je suis partie en vacances en Italie, eh ben, on est ensemble et je l'aime et je vais tracer un bout de chemin avec elle. Moi, à ce moment-là, j'étais pas particulièrement à l'aise avec l'idée de faire un coming out en tant que tel parce que je me disais, c'est gênant de parler de sexualité à ses parents. Enfin, j'ai pas envie de leur parler de mes préférences. C'est pas ça ce que j'ai envie de leur dire. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je suis en couple avec quelqu'un qui me rend heureuse. Donc, ce que je leur dis, c'est pas papa, maman, j'aime les femmes. Ce que je leur dis, c'est papa, maman, j'aime Camille. Camille, elle n'est pas comme les autres. C'est quelqu'un de précieux et on vit une très belle histoire toutes les deux. Et mon père, il réagit super bien à cette annonce. Il est très cool et très compréhensif. Il dit, ah ouais, je croyais que vous étiez juste amis. Bon, bah, si c'est plus, c'est bien aussi. Et ma mère, c'est pas du tout la même chanson. Elle se ferme tout de suite. Quand je leur fais cette annonce, je leur dis aussi, s'il vous plaît, ne me dites pas que ce n'est qu'une passade, parce que j'ai attendu exprès un an pour vous le dire, pour vous montrer que c'est du sérieux, que je ne blague pas et que c'est pas une lubie comme ça sans importance. Ce n'est pas le cas. Alors, j'essaye de lui demander ce qu'elle en pense. Elle dit, ben, tu nous as dit de pas te dire que c'était une lubie, alors je dis rien. Bon. Et donc, on reparle plus de ça. Ils repartent et moi, je me sens vraiment très très secouée, quoi. J'ai fait cette annonce-là à mes parents, enfin, toute seule dans un pays que je connais pas, où je connais personne. Ça faisait quand même une sacrée épreuve. Et donc, après, j'en reparle un petit peu à mes parents, à ma mère. Et je comprends qu'elle, c'est quelqu'un qui a énormément peur du regard des autres. Elle a toujours peur du qu'en dira-t-on, tout ça. Alors j'essaye de la rassurer autant que je peux et je finis par leur proposer de venir passer un week-end à la maison. Ils viennent chez Camille et moi. Camille m'a fait une surprise. Pendant que j'étais en Suède, elle a pris les clés de mon appartement et elle a fait tout mon déménagement quasiment toute seule. Enfin, elle a appelé des amis, mais quand je reviens de Suède, 60% de mes affaires ont déjà été bougées. Et l'autre surprise que m'a fait Camille, c'est que pendant que je suis en Suède, elle vient me voir et elle m'offre un billet d'avion aller-retour pour la Martinique. Parce que Camille est originaire de Martinique et que en juin, elle part fêter les 100 ans de sa grand-mère en Martinique. Et donc, elle m'offre ce billet en me disant « Ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes avec moi. C'est un moment important pour moi parce que la dernière fois que je suis allée en Martinique, j'avais 4 ans. Ça va être un beau voyage et j'ai très très envie de le faire avec toi. » Alors, je me sens dans la stratosphère, quoi. C'est vraiment... Jamais quelqu'un n'a soulevé des montagnes comme ça pour moi, quoi. Mes parents passent ce fameux week-end et ça se passe super mal. Parce que ma mère est tendue. À chaque fois qu'on lui montre un signe d'engagement, elle freine des quatre fers. Tout signe qui montre qu'on s'engage sur le long terme, elle bloque, elle freine. Alors moi je m'énerve et je lui envoie un mail en lui disant « Écoute, moi je suis avec Camille, je l'aime, si t'es pas contente c'est bien pareil. Je vais faire ma vie avec elle, que tu le veuilles ou non, fais-toi une raison. » Et j'ai été un peu brutale avec elle, c'était une première pour moi, mais je sentais que c'était nécessaire. Et elle a entendu le message. Après on en a beaucoup reparlé, elle a dit qu'elle comprenait beaucoup mieux. Entre-temps j'en ai parlé au reste de ma famille aussi, qui l'a super bien accueillie. Camille a rencontré par la suite mes tantes, qui l'ont adorée, mais immédiatement. Et ça a beaucoup aidé ma mère, je pense. Elles en ont discuté entre elles, certainement, et j'ai senti que ma mère avait perdu tous ses a priori, toutes ses craintes qu'elle pouvait avoir, pour finalement accepter Camille telle qu'elle est, en tant que la personne super qu'elle est. Et elle est même devenue d'un grand soutien, quoi. Maintenant, elle nous encourage dans tout ce qu'on veut faire ensemble. Il n'y a plus d'histoires cachées, tout est clair. Ma mère se rend compte que Camille est quelqu'un d'extrêmement attentionné envers moi. Je lui ai dit tout ce que Camille avait fait pour moi, pour lui montrer qu'à nouveau, c'était pas une histoire superficielle. Et elle l'a pleinement accepté. Et maintenant, c'est parti, quoi. On est prête à tailler la route. On a pour projet de s'installer. Moi, je suis en train de chercher un travail un peu plus stable sur Strasbourg pour qu'on puisse acheter une maison. Et on aimerait fonder une famille. Ça, on en a beaucoup, beaucoup parlé. C'est très, très clair dans nos têtes. On veut des enfants ensemble. Et puis se marier aussi. Tant qu'à faire. Comme on parlait de notre désir d'enfant mutuel, on en a discuté, et moi j'ai dit que j'étais ok pour porter l'enfant, pour être enceinte, elle ça lui dit pas. Et pour que Camille puisse être la mère biologique de cet enfant, pour pas qu'elle ait l'impression d'adopter mon enfant, on aimerait faire une procédure qui se fait souvent pour les couples de femmes, c'est-à-dire que ce serait l'ovule de Camille avec les gamètes d'un homme qui me ressemble, et ce serait moi qui porterais l'enfant. Comme ça fait à peu près 50-50. Et ça correspond plutôt bien à notre philosophie de vie, puisqu'on essaye toujours de faire en sorte que ce soit vraiment égalitaire entre nous deux, pour pas qu'il y en ait une qui se sente lésée et que ça crée des tensions. Donc on s'est mis d'accord là-dessus. Mmh. moi, ce que je dirais, c'est que au final, j'ai eu des histoires pas très réjouissantes avant, mais je pense que ça a participé à me forger comme je suis maintenant, et ça, tout cet enchaînement de choses a fait qu'au final, on était prêtes l'une et l'autre à se rencontrer au moment où on s'est connues. Et ce que j'ai compris aussi, en ce qui me concerne de ma modeste expérience, c'est que quand quelqu'un nous fait du bien, il faut l'accueillir pleinement. Il faut vraiment pas se mettre à soi-même des bâtons dans les roues à cause de ce qu'on pense qu'il faudrait faire. Enfin, moi, en tout cas, je me suis énormément bloquée toute seule avec ça, avec ce que je pensais qui était bien et qui ne l'est pas. Et au final, la seule chose qui est bien, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est plus qu'une princesse, Camille, c'est ma reine. c'est pas d'un chevalier que j'avais besoin, c'était d'une reine.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.